8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique, comme chaque mois, vous le savez, si vous démarrez une jeune entreprise, eh bien c'est le moment de nous parler de vos freins pour vous développer et de poser toutes vos questions au coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Et très belle année 2023.
Merci, très belle année à tous nos voisins, à vous Emmanuel, à toute l'équipe qui soutient cette émission et à nos entrepreneurs qui vont gagner beaucoup d'argent cette année.
On l'espère. Vous êtes le président du cabinet Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Et si vous écoutez les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, là, si vous êtes, ça y est, si vous avez bien ouvert le poste de radio, eh bien, Didier vous aide à trouver des solutions à vos problèmes. En deuxième partie d'émission, un débat qui préoccupe de nombreux entrepreneurs, des entrepreneurs plus aguerris, plus avancés. Comment financer la croissance des petites et moyennes entreprises sur le continent? Les fonds d'investissement et les prêts sont-ils indispensables à cette croissance? Didier, c'est vrai qu'on est sur des marchés très concurrentiels, y compris sur le continent africain. Il faut souvent grandir vite et sans argent, c'est difficile de se développer, surtout quand on dégage peu de bénéfices.
Effectivement, si vous voulez, l'écosystème financier qui doit soutenir les entrepreneurs n'est pas toujours au rendez-vous lorsque les jeunes entrepreneurs cherchent des financements. Donc ça fera l'objet de notre discussion parce que les montants recherchés sont souvent assez petits. Il faut savoir que 95% du secteur préafricain, ce sont des TPE, PME, donc des très petites entreprises de 1 à 3 employés qui font peut-être 5 000 dollars ou 10 000 dollars.
Ouais.
D'affaires. Donc
c'est des petites entreprises. Et ce sont eux qui font toute l'économie du continent en même temps et qui pourvoient, qui proposent le plus d'emplois. Il ne faut pas oublier.
Ah bah oui, c'est, selon les pays, c'est 60 à 70% du GDP et au moins 70% des emplois dans beaucoup de pays. Donc c'est ça, les acteurs de la croissance africaine et malheureusement,
et ils ont besoin
ce
de financement.
Sont ceux qui ne sont pas assez soutenus.
On va en discuter ça en deuxième partie avec nos invités. Serge Massamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des dirigeants du groupe Cofina, institution financière panafricaine qui est dédiée à la mésofinance. À Abidjan, vous êtes présent dans plusieurs pays du continent. La mésofinance, on va bien sûr en reparler, réexpliquer ce que c'est, mais c'est entre le microcrédit et le prêt bancaire. Hein. Pour
oui,
schématiser.
Tout à fait,
et bien sûr, les voisins et les voisines, vous allez mieux comprendre ce concept de la mésofinance et comment ça peut vous aider à financer votre petite entreprise. On sera également en ligne avec Mialira Nefson, qui est directrice du bureau de Madagascar pour un fonds d'investissement franco-panafricain, investisseur et partenaire. Est-ce qu'elle est en ligne avec nous, Mialira Nefson? Bonjour Mialira Nefson.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et voilà, et vous nous direz aussi ce qu'apporte un fonds d'investissement hein, quand il entre au capital d'une PME. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous nous appelez pour participer à l'émission et dialoguer avec le coach, même si vous en êtes à l'état de l'ébauche, hein, du business plan, vous n'avez pas encore vraiment démarré votre petite entreprise. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec une jeune entrepreneuse comme on les aime, Mariama Magiraga, 23 ans, à Libreville, au Gabon. Bonjour Mariama.
Bonjour.
Merci
Bonjour,
d'être Mariama. En ligne avec nous. Vous êtes prête à dialoguer avec le coach Didier Akwété?
Toujours prête.
Alors vous êtes à 23 ans diplômée de l'EM Gabon, qui est une école de commerce privée. Vous avez un Master 2 en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Votre entreprise de produits agroalimentaires s'appelle Tuber Chips. Et ce sont des chips de tubercule de manioc. Le manioc, c'est le produit agricole le plus répandu sur le continent, Didier. Hein, on peut dire ça comme ça.
Ah oui, c'est un des tubercules les plus consommés dans beaucoup de pays.
Mais ça, en même temps, une image un peu de produit très, très rural. Hein. Alors justement, vous allez nous raconter pourquoi vous avez commencé à travailler sur le manioc dès la fin de vos études. Pourquoi le manioc? Alors que c'est pas le produit qui a la plus belle image de la modernité, on va dire, pour les classes urbaines, pour les étudiants, etc.
Effectivement, alors l'aventure débute aux alentours de octobre 2018. Donc à cette période-là, je devais préparer un DUT, donc un bac plus 2, et on était en fin de formation. Donc, dans notre établissement, il y avait justement cette option-là. Enfin, cette option, on devait présenter un projet de fin de cycle et il fallait choisir un thème. On était constitué en groupe. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas s'axer sur un produit, s'axer sur la création d'une unité de transformation de tubercule de manioc, mais en chips. Parce qu'au départ, après une étude de marché, on a remarqué que le tubercule de manioc avait beaucoup plus un aspect rustique, avait beaucoup plus un aspect uniquement rural, avec définitions telles que le garni, le tikwang, le foufou, entre autres, mais il n'y avait pas d'aspect novateur, au même titre que la pomme de terre, par exemple, ou la banane, et pourtant, c'est un tubercule qui offre énormément de diversité. Donc, on s'est basé sur ça, on a fait une étude de marché, parce qu'on a remarqué que la population gabonaise grignote assez et aime bien les croustilles, surtout les croustilles locales, elles sont assez adeptes. D'ailleurs, il y a eu nos grands-mères à l'époque qui en faisaient, mais pas de manière modernisée. Donc, on s'est dit qu'on allait aller sur ce pan-là. On a présenté le projet et on a d'ailleurs constitué un échantillon. Bon, à l'époque, l'échantillon n'était pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. Il y avait certains aspects qui n'étaient pas réunis. Mais on voulait qu'au-delà des chiffres qui soient présentés au jury, le jury puisse voir la réalité du projet, en fait. Ouais. Puisse se rendre compte que les chiffres de tubercule de manioc, ça existe concrètement. Donc, on s'est lancé dessus. Bon, malheureusement ou heureusement, pour des raisons de spécialité universitaire, chacun d'entre nous a dû aller assez... à ses objectifs personnels.
Et vous avez continué la route toute seule, hein, finalement. Mariama, vous avez commencé à fabriquer vos chips, vos croustilles à la maison, avec l'emballage la nuit, tout en terminant vos études. Les petits sachets en papier craft, là, donc avec moins de plastique, hein, je le précise aussi. C'est vraiment la dure vie des jeunes patrons de l'Afrique qui gagne. Je crois même que vous avez payé votre école de commerce avec vos croustilles ou pas ?
Ça a quand même contribué à un certain pourcentage, oui. Ça m'a d'ailleurs permis de voir les dépenses et tout ce qui est argent autrement sous un angle beaucoup plus sérieux.
Mmh. Ah bah c'est sûr, ça permet de grandir. Hein. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Je crois que vous êtes en fait bloqué du point de vue de l'équipement, d'où votre question au coach. Parce que vous produisez à l'heure actuelle quoi ? Plus de 6000 paquets de 40 grammes par an ?
Oui, approximativement. On essaie vraiment d'atteindre cet objectif-là malgré les difficultés parce qu'il faut dire que travailler avec des outils rudimentaires et artisanaux, le handmade a énormément de limites. C'est-à-dire que si on est sur des quantités à l'échelle ou si on travaille avec des chaînes de supermarché qu'il faut satisfaire la demande, c'est pas évident de travailler à la main. Il faut forcément des procédés mécanisés ou semi-mécanisés pour accroître la production et l'optimiser. Donc oui.
Et donc vous êtes sur un chiffre d'affaires de à l'année ?
Assez intéressant, on est à plus de 500 000 francs l'année. Mais vraiment, si on a des années où il y a énormément de demandes, évidemment, avec le temps et avec les années, le produit est davantage connu. Et lorsque les chaînes de distribution seront davantage importantes, on fera davantage de chiffres d'affaires, évidemment. Oui. Mais il faudra mettre les moyens et les machines pour...
Quelle est votre question au coach ? Parce que d'ailleurs, quand vous dites des machines, on peut croire hein, que fabriquer des chips de manioc, c'est très simple. C'est pas si simple du tout. Il y a tout un processus. D'ailleurs, vous l'avez énormément détaillé dans votre business plan. Quelles sont les questions que vous souhaitez poser à Didier Akwété ?
Alors, moi, je voulais savoir, étant donné que notre entreprise a débuté sur la base de l'autofinancement et on s'en sort assez bien avec ce mode de financement jusqu'alors, parce qu'il nous permet justement de prouver aux éventuels partenaires ou investisseurs qu'on a atteint une certaine échelle d'accomplissement et qu'on a besoin d'un autre pourcentage pour pouvoir compléter cet accomplissement-là, comment les TPE peuvent approcher les établissements de microfinance justement pour avoir accès à ce crédit ? Étant donné qu'on n'a pas de gage important ou étant donné qu'on n'a pas de base financière importante finalement.
Didier Akwété, plus généralement, qu'est-ce que vous pensez du projet qui a déjà démarré ? Parce que Mariama n'a pas précisé qu'elle n'arrive pas à fournir à la demande. Elle a commencé en ciblant les étudiants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large et elle n'arrive pas à produire.
Oui, en fait, elle est tout à fait dans le principe d'un entrepreneur qui entreprend soit par hasard ou autour d'un projet universitaire et puis qui se rend compte que le marché existe et le marché grandit. Et donc Mariama est sur un segment de marché qui est en plein développement parce que, par exemple, quand on prend certaines compagnies aériennes en Afrique, comme Askai pour ne pas les nommer, parfois ils donnent des chips de manioc qui sont très bons et qu'on retrouve aujourd'hui dans les aéroports, dans les produits un peu locaux. Donc, effectivement, elle est sur un marché qui est porteur et qui demanderait à ce qu'elle change en réalité de business. Elle a commencé de manière artisanale avec, je crois, un chiffre d'affaires de 3 millions, hein, un peu plus de 3 millions dans le document qu'elle nous a transmis.
Et donc, C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà, un peu plus de 5 000 euros. Hein, par voilà.
an. Donc, c'est un petit business qui peut grandir à condition, effectivement, qu'elle se structure mieux. Et donc, pour se structurer, bon, je suppose que vous avez une société établie, donc une structure juridique, soit une SARL ou une EIRL, donc une structure juridique qui existe, qui peut, à ce moment-là, s'adresser à des financiers. Alors, la banque ne va pas financer, à mon avis, clairement. Donc, ça va être plutôt un financement de type mésofinance, comme Serge Massamba en parlera tout à l'heure, ou alors du friends and family, parce que le business est assez petit. Et pour passer à l'échelle, ce que les investisseurs, qu'ils soient friends and family, ou mésofinance, ou capitalistes, vont lui demander, bah, c'est de prouver que son marché existe et qu'elle peut livrer si demain on lui achète une machine à 10 000 dollars ou 5 000 dollars et qu'on l'équipe. Et qu'elle peut soutenir en fait la production et la demande qui est en face. Donc ça veut dire que son marché aujourd'hui...
C'est le serpent qui se mord la queue quand même. Si vous n'êtes pas équipé, vous ne pouvez pas prouver que vous allez répondre à la demande.
Et effectivement, mais si au moins vous pouvez prouver à l'investisseur ou même aux amis qui vont mettre de l'argent que vous avez des commandes potentielles, vous avez ces supermarchés qui vous demandent de livrer tant, vous avez des bons de commandes potentiels, et ben ça conforte le financier dans sa décision de mettre un peu d'argent et voire même de faire un peu du crédit buy pour l'équipement. Donc elle n'est pas sur un cycle d'investissement très lourd. Et c'est pour ça que c'est plutôt le friends and family qui va fonctionner. Parce que, et puis peut-être un peu de méso, mais avec des taux qui sont peut-être un peu élevés par rapport à ces marges qui, à mon avis, ne doivent pas être très élevées.
Hein. Ouais, alors justement, Mariama, vous auriez besoin de combien, en fait, pour vous équiper réellement avec des machines pour produire plus vite et plus de paquets
alors,
de chips?
Alors, l'essentiel, au titre des machines, il y a un besoin de 3 machines principales. On a une centrifugeuse, une trancheuse automatique et... une thermoscelleuse à bombine continue. Donc, on est pour un, on va dire, une estimation prévisionnelle à un peu plus de 10 millions de francs CFA, tout inclus, sachant qu'il y a le transport, les frais de transit, entre autres. Donc, c'est tout ce qui a déjà été établi au départ. Mais par contre, j'avais une question au coach. Je voulais savoir, pour les entreprises qui sont enregistrées sous le régime d'entreprise individuelle, est-ce qu'elles ont cette même possibilité-là que des salles ou des suales, par exemple?
Non. C'est un peu compliqué parce que une entreprise individuelle, c'est vous et les banques, les investisseurs sont plus confortables lorsque vous êtes une société, une SARL par exemple, même si vous êtes associé unique, mais en tout cas une société de capitaux, parce que ce que vous avez déjà mis dans votre business, c'est déjà des capitaux que vous avez investis. Et donc aujourd'hui, vous êtes en entrepreneur individuel, c'est ça?
Oui.
D'accord. Oui, mais ça c'est pas dramatique de changer le régime juridique de votre entité. Mais le fond de votre sujet, c'est que vous transformez votre business. Même quand vous dites il me faut 10 millions d'investissements, donc soit l'équivalent de 15 000 euros, ça c'est que pour les équipements. Mais vous allez changer votre système de distribution, vous allez recruter, donc ça veut dire que vous devez lever au moins 20, 25, 30 000 euros, voire 50 000 euros tout de suite pour changer d'échelle et faire un vrai business, allez, on va pas dire industriel, semi-industriel, avec tous ces équipements.
Mais pour changer d'échelle, il faut amener ces éléments concrets dont vous avez parlé, Didier Akwete. Est-ce que vous les avez, ces éléments concrets? Est-ce que vous avez les bons de commande de supermarchés qui sont prêts à vous suivre sur un plus long terme et sur une autre échelle également?
Pour le moment, nous sommes en discussion avec ces lignes de supermarchés parce qu'il fallait remplir certaines conditions, notamment obtenir un agrément sanitaire qui nous permettrait d'évoluer avec des conformités et un aspect sanitaire vraiment formalisé et normalisé. Donc, on l'a obtenu. Et donc, on est en discussion justement avec ces lignes de supermarché-là. Mais justement, à un moment donné, la demande, elle sera importante. Et est-ce qu'on pourra la contrer avec le temps? Parce que c'est des questions d'efficacité. Justement, il faut être à l'optimum de la production.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si à Libreville, parce que dans certains pays, hein, en Afrique ou ailleurs, vous pouvez vous appuyer sur une entreprise qui existe déjà, qui a une unité d'usine, une unité de production qui peut potentiellement transformer vos produits. Donc, vous faites un partenariat avec une usine qui a des lignes de production qui ne sont pas utilisées à 100% et qui peut tout à fait, dans un premier temps, accepter de faire un partenariat économique et semi-industriel avec vous. Et vous commencez à déjà augmenter votre capacité de production avec cela, en attendant de mobiliser du financement. Alors, je ne sais pas si ça existe, si vous avez rencontré des industriels dans ce domaine à Libreville qui pourraient tout à fait s'engager avec vous aussi.
Est-ce que vous avez des contacts, Mariama ?
Pas pour le moment sur cet aspect-là. Je ne vais pas dire que ça, il n'y en a pas, mais ils se font assez rares, donc il faut davantage chercher. Et on est justement dans cette recherche-là parce que cette option-là nous avait été proposée il y a quelques temps, mais après la proposition n'avait plus lieu, donc on est toujours sur cette démarche.
C'est ça, il faut que les unités de transformation soient disponibles aussi. Hein. Il faut qu'il y ait des temps morts dans l'unité de transformation pour accueillir un entrepreneur qui vous produit.
De nuit, quand les machines ne tournent pas, on vous donne 2-3 heures et vous fabriquez vos 6000 paquets de chips en une heure.
Ouais. Vous croyez au projet de Mariama ou pas?
C'est un bon projet, on le trouve. Vous savez, moi, quand je passe dans les aéroports en Afrique, j'achète toujours ces produits transformés localement, soit des produits qu'on mangeait quand on était petit, ou alors des chips de cette nature que je teste. Et je vois que c'est un marché qui aujourd'hui se structure avec des packagings qui sont bien faits, un marketing qui
est
nouveau.
Avec des produits africains, avec une tubercule d'ailleurs dont il y a une augmentation de la croissance, de la culture du manioc au Gabon. Mariama, parce que votre manioc, il est acheté uniquement en circuit gabonais. Hein.
Effectivement, avec des fournisseurs gabonais, c'est vrai qu'avec le temps, il y a des périodes également, des périodes de forte sécheresse, par exemple, où on est potentiellement dans la difficulté, mais on essaie de contrer ces situations de pénurie-là en maximisant la demande à une période. Donc, ce qui fait que lorsqu'on est en période de saison très sèche et que les sols sont vraiment secs et qu'on ne peut pas extraire le tubercule, au moins, on a une période qu'on pourra justement contrer avec une demande qui a été
située. Oui, c'est un produit qui se conserve pendant très longtemps, une fois qu'il a été bien conditionné dans des sachets sous vide. J'aimerais bien avoir l'avis du spécialiste de la mésofinance, Serge Massamba. Qu'est-ce que vous pensez d'un projet comme celui de cette entrepreneuse Mariama à Libreville?
C'est un excellent projet. Je pense que Mariama peut directement aller voir nos équipes à Libreville, notamment le DG LHFI, qui, à mon avis, trouvera une solution très rapide pour Mariama. Pourquoi ? Parce que nous finançons ce type de projet, justement, parce que ça répond évidemment à un besoin. L'accompagnement qu'on apporte aux PME est régi par des critères simples et agiles. Dans le cas de Mariama, d'entrée de jeu, la capacité technique qu'elle a démontrée de gestion du promoteur, on sent en elle une bonne gestionnaire. On accompagne des entrepreneurs qui font preuve de cohérence et d'engagement dans leur business, et c'est bien le cas.
Didier Acoté avait l'air de dire que tout de même, emprunter, ça coûte cher quand même, pour une entrepreneuse et une petite entreprise de cette taille-là, Didier.
De toute évidence, parce que
en taux d'intérêt.
je ne sais pas ce que nous dira Serge Massamba, mais c'est vrai que nous sommes sur des taux relativement élevés pour ces petits business.
C'est la même chose pour le microcrédit.
Effectivement. Et donc, il faut s'assurer que son business model puisse absorber des taux d'intérêt de cette nature. Mais peut-être que Serge nous dira qu'il y a d'autres...
Disons que les taux d'intérêt répondent à un vrai besoin, parce qu'on va passer beaucoup de temps avec Mariama pour analyser ses états financiers, en tout cas les reconstituer si c'est nécessaire, comprendre son business. Je pense que c'est là où la mésofinance est une voie alternative de la finance.
Entre parce le qu'elle permet
d'accompagner les classes moyennes émergentes et plus spécifiquement les entrepreneurs ou entrepreneuses individuelles et les PME pour leurs besoins de financement. Et il y a aussi la célérité, on est très rapide, donc les banques commerciales existantes ne sont pas suffisamment rapides. Donc tout ça... me fait dire que le taux d'intérêt n'est pas un sujet pour ces types de financement.
Oui, l'entreprise a une croissance suffisamment rapide, parce que quand il faut commencer à rembourser et qu'on n'arrive pas à dégager suffisamment de bénéfices, c'est quand même pas si simple. Miali Ranefson, vous êtes en direct avec nous de Madagascar. Alors vous financez des beaucoup plus grosses PME, mais qu'est-ce que vous en pensez du projet de cette jeune entrepreneuse ?
Effectivement, nous finançons des projets qui sont beaucoup plus grands. Néanmoins, d'un point de vue d'investisseur, le projet a énormément d'atouts qui sont qu'elle a déjà commencé.
Oui.
Le fait qu'il y ait un marché, il y a un plan de développement qui est très clair et qui d'ailleurs permettra de répondre à une demande supplémentaire qui n'est pas encore satisfaite aujourd'hui. Mmh. Donc je pense que c'est un projet qui a un vrai atout, qui peut aller loin si elle arrive à le financer correctement et également bien sûr avoir les opérations qui croissent avec elle.
Vous restez bien sûr en ligne avec nous. Mariama, on vous souhaite évidemment de grandir. Hein. Peut-être un mot sur vos objectifs. Comment vous vous voyez d'ici 3 ans si vous obtenez enfin des financements?
On se voit comme la référence de la CIP gabonaise à l'international.
Eh bien voilà, c'est bien résumé. Hein.
Eh ben c'est parfait, c'est un beau challenge.
Merci à vous, Mariama, d'avoir été en ligne avec nous. Donc, on vous souhaite en tout cas plein succès pour vos chips de manioc. Une marque à retenir, déjà bien identifiée chez les étudiants. Je crois qu'aussi vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Tuber Chips, très belle journée à vous. À Libreville, Mariama.
Il faudra quand même qu'on les goûte, vos chips, Mariama.
Oui, on veut bien recevoir un paquet en attendant d'aller vous voir, bien évidemment, à Libreville. Les voisins, les voisines, si vous êtes comme Mariama, ex-étudiante, étudiant, jeune diplômée, entrepreneur, et que vous devez surmonter, vous l'avez entendu, de nombreuses difficultés, appelez-nous dès maintenant pour passer dans la prochaine émission dialoguer avec le coach. Des conseils gratuits, hein, ça peut pas faire de mal. Lydia Couetté, peut-être pas besoin de transition. Alors, je vais redonner le numéro de téléphone, hein, quand même, si notre compte WhatsApp pour les jeunes diplômés, 33 7 64 45 51 41. Didier, dans quelques instants, on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Pour les PME, cette fois-ci bien établies, le problème reste le même. Comment financer la croissance des PME? Et on va en parler avec nos invités dans quelques instants. Ce sera juste après Burna Boy, le Nigérian qui monte toujours plus haut. Il vient d'être sacré artiste de l'année à Dakar lors des All African Music Awards. Et sa chanson, ça tombe à pic. African Giant.
Tell them Africa we don't die. So here comes the African Giant. Many, many people don't try. But you can't test the African Giant. Give me your molo. Get the passing when you know, no. Making them loco, oh no. Making up the do like Koto Koto. Nobody do it better than me. Can nobody do it better? Check a man see, I know say one day he go better. Go carry Grammy. Because anything we better require planning. Don't be, oh. Nothing you can do. Because God he no go give you more than you can undo. Now so them mama go hala, ebele bebo. Now so them papa go hala, ebele bebo.
On est en direct sur RFI. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique avec le coach Didier Akwete. Et cette deuxième partie d'émission maintenant que nous abordons avec un débat, comment financer la croissance des petites et moyennes entreprises du continent, les PME également avec nous, donc Serge Massamba du groupe Cofina et également Mialira Nefson de Investisseurs et Partenaires, directrice du bureau de Madagascar. Didier Akwete, je sais que vous souhaitez rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours professionnel, un père de l'entrepreneuriat sur le continent africain.
Absolument, on en parlait avec Serge Massamba tout à l'heure, c'est Paté Dionne qui nous a quitté la semaine dernière, le fondateur du groupe Sonou, Assurance, qui est un vrai géant, un vrai champion, qui a inspiré beaucoup d'entrepreneurs. Et malheureusement, il nous a quittés. Et j'avais eu le plaisir de lui remettre le prix de l'entrepreneur à Dakar il y a 3 ans. Il m'a remis le mien à Nouakchott il y a 1 an. Et vraiment, nous sommes très tristes avec tous les amis qui aimaient beaucoup Paté Dion. Et donc, avec ma sœur, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de lui rendre un hommage et qu'il repose en paix, notre grand frère Paté Dion. Ouais,
c'est important, les modèles, quand on est un entrepreneur. Oui, c'est comme une figure lointaine qu'on essaye de rejoindre.
Tout à fait, surtout un visionnaire dans nos industries. Je sais que son impact sera ressenti pendant des nombreuses années à venir.
Alors, comment financer la croissance des PME sur le continent africain ? Serge Massamba, vous êtes un des dirigeants du groupe Cofina, institution financière donc panafricaine dédiée à la mésofinance. La mésofinance, d'ailleurs, on va réexpliquer comment vous financez très concrètement, mais vous venez du conseil aux grandes entreprises et aux banques. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution des financements au secteur des PME sur le continent africain ? Est-ce que ça progresse ?
Oui, ça progresse. Nous, on est parti d'un constat, je pense qu'il y a en 2010, avec Jean-Luc Conan et les autres membres fondateurs, que l'Afrique allait de toute façon accélérer. Il y a 3 éléments importants. C'est le taux de croissance de la population, très élevé aujourd'hui, qui est autour de 3%. Une population très, très jeune, de 0 à 40... 45% de la population entre 0 et 14 ans. Et une population jeune, un taux d'urbanisation très élevé. Au-delà de 3%, ça crée ce que j'appelle le rebalancing, ce mouvement entre les zones rurales et les villes, où aujourd'hui on a des villes qui sont devenues très très grosses, et ça crée des challenges énormes, comment se nourrir, se vêtir, transport, énergie, et c'est là où les challenges génèrent des opportunités de financement et de business pour les PME, donc une croissance qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter. Et donc, des opportunités pour nous et pour d'autres.
Pour vous, Didier Akouété, est-ce qu'il y a vraiment du cash pour les entreprises aujourd'hui ?
Alors d'abord, c'est une terre d'entrepreneurs, l'Afrique, et c'est vrai aussi que la question du chômage des jeunes fait que beaucoup de jeunes rentrent dans l'entrepreneuriat. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, on voit bien que le déficit financier par rapport aux besoins de ces entrepreneurs, on estime que c'est plus de 300 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et donc, pour transformer ce continent, il faut arriver à trouver des instruments financiers, des mécanismes qui permettent de financer ces entrepreneurs pour créer ces emplois et créer la croissance. Et malheureusement, beaucoup de ces instruments manquent. C'est ce que j'appelle souvent l'écosystème et aussi ce que les financiers appellent le risque PME, qui par moment est un risque peut-être exagéré, mais il faut trouver le moyen aussi de mitiger ce risque pour faciliter l'accès au financement de ces acteurs.
Mialy Ranefson, pour le bureau de Madagascar du fonds d'investissement investisseurs et partenaires, qu'est-ce que vous diriez sur la situation de l'écosystème des PME à Madagascar, en particulier de leur financement aujourd'hui ?
Alors, est-ce que je pourrais dire que Madagascar est précurseur ? D'un côté, oui, puisque nous avons plusieurs fonds d'investissement qui sont présents et que nous avons un microcosme d'investisseurs et de banques et de microfinance qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, une reconnaissance de l'utilité des PME dans le paysage entrepreneurial d'un côté, mais aussi économique en général, et un financement qui existe, mais qui reste malgré tout, il faut reconnaître, insuffisant. Notamment parce que la prise de risque de la part des acteurs du financement reste très limitée. On a peur de financer les PME. La prise de risque reste le facteur limitant à ce stade de mon constat.
Alors justement, vous, sur quels critères vous décidez de prendre départ dans le capital d'une PME, sachant qu'il y a beaucoup de PME familiales à Madagascar et que les PME elles-mêmes peuvent être réticentes, même si elles ont besoin de cash, qu'elles ont besoin de financement pour leur croissance, à ouvrir leur capital ?
Effectivement, il y a une vraie réticence aujourd'hui de la part de certains entrepreneurs à ouvrir leur capital parce qu'il y a la peur de la perte du contrôle d'un côté et d'un autre côté, la méconnaissance de ce que peut apporter et ce que peut être les bénéfices d'un partenariat avec un fonds d'investissement. pour en revenir à la première question qui était sur quels critères. Le premier, le principal, reste l'entrepreneur. Est-ce que c'est un entrepreneur qui est capable de mener son entreprise à la, suivant le plan de développement qui est défini, de mener le changement d'échelle, de mener les équipes, d'identifier les marchés, etc. Ça reste le premier critère.
Le potentiel de l'entrepreneur plus que le marché lui-même ?
En général, pour il y a certaines évidences et certains raccourcis qu'on peut faire. C'est qu'un entrepreneur qui a du potentiel, tant technique que dans le management en général et commercial aussi, saura se positionner sur un marché.
Quel qu'il soit, pratiquement.
Oui, sauf bien sûr sur des segments qui sont relativement rares, très spécifiques, où il n'y a pas de marché. Mais en général, un bon entrepreneur saura se positionner sur un marché et saura vendre son produit. C'est un raccourci que je fais, mais bien sûr, on va vérifier ce marché, la capacité de prendre beaucoup plus sur ce marché.
Alors, on reviendra avec vous, bien sûr, hein, Myaly Ranosson, sur ce que peut apporter un fonds d'investissement en dehors du cash, hein, en termes d'accompagnement. Pour vous, Serge Massamba, vous n'avez pas cette difficulté de la réticence d'un patron de PME, puisque vous, c'est majoritairement du prêt, c'est pas forcément des parts que vous allez prendre comme un fonds d'investissement.
Oui, tout à fait.
La maison finance. On va peut-être rappeler comment ça fonctionne. Hein.
Alors, comment ça fonctionne, et c'est la mésofinance, c'est la voie du milieu. En fait, c'est entre les banques et les microfinances. La mésofinance, c'est une alternative, je dis, de la finance. Elle permet d'accompagner les classes moyennes émergentes et plus spécifiquement les entrepreneurs individuels, comme tout à l'heure avec Mariama.
Donc, ce sont des sommes qui vont de combien à combien ?
Nous, on a en moyenne 10 000 euros. C'est pour ça qu'on est méso, parce qu'on ne descend pas vers les 100 euros. On est vraiment dans les milieux. On peut aller jusqu'à 600 000 euros. Mais en effet, dans notre approche client, je pense que ce que dit notre interlocuteur, c'est quand même assez important, parce que l'accompagnement qu'on apporte aux PME est régi généralement par des critères simples et agiles. Je disais tout à l'heure, on regarde la capacité technique et la raison du gestionnaire et du promoteur. Parce que le marché est là, en fait. Mais ce qui est important, c'est l'exécution, in fine. Le business model, comme on dit, c'est facile à gérer dans un écosystème où la croissance est assez élevée. En revanche, la capacité à exécuter, c'est ça qui est important. Et puis, on regarde aussi s'il y a une source de remboursement existante pour ce type de financement. Et enfin, les entrepreneurs de bonne moralité qui aspirent à devenir des grands champions. La maman qui commence à vendre ses tomates dans un marché et qui demain va payer les études de son enfant, de son fils, qui demain va reprendre l'entreprise familiale, etc.
Vous avez des histoires comme ça chez vous ?
On a des histoires comme ça. Quand on regarde notre portefeuille d'évolution depuis 2014, on a des histoires de ce type-là où les personnes ont commencé avec nous, on les a accompagnées. Et aujourd'hui, ces personnes-là font chiffre d'affaires au-delà du milliard.
Mais la mésofinance peut servir à donner un coup de pouce, par exemple, à la trésorerie, ou c'est vraiment un levier de croissance, hein?
C'est un levier de croissance qui permet d'accompagner. On a parlé tout à l'heure de la chaîne de valeur du manioc. Nous, on a travaillé avec un de nos partenaires qui s'appelle FMO, justement, pour pouvoir adresser cette chaîne de valeur via des financements. On a financé une centaine de femmes, mais on les a formées également. On les a formées pour qu'elles puissent comprendre déjà, entre guillemets, les états financiers basiques. Donc il y a un accompagnement, c'est pas seulement ponctuel, un accompagnement pour l'achat des machines, mais aussi un accompagnement à impact. Nous sommes une société à impact, et l'impact, on le suit du début à la fin. Donc on n'est pas ponctuel.
Didier à côté.
Effectivement, en fait, c'est une combinaison de ces instruments. C'est pour ça que dès le début de l'émission, je disais, il faut un écosystème financier. Typiquement, Mariama, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, qui a besoin d'acheter des machines pour augmenter sa production, peut-être qu'elle va peut-être aller vers une solution de crédit bail. Donc, ce n'est pas elle qui paye la machine, elle va payer un loyer. Donc, un tiers va payer la machine et elle paiera un loyer jusqu'à ce que la machine devienne éventuellement la sienne. Ensuite, elle va aller voir quelqu'un comme Cofina qui va lui prêter un peu d'argent, donc un peu de dette pour soulager sa trésorerie. Puis au fur et à mesure qu'elle va grandir, peut-être quelqu'un comme IEP peut dire « Ah là, vous devez renforcer vos fonds propres, vous avez besoin de faire plus d'investissements. Et bah, si vous êtes capable de jouer le jeu, nous allons mettre un peu d'argent au capital, donc vous donner des muscles pour grandir plus vite. » Mais tout ça se fait surtout avec de l'assistance technique. Parce que bien souvent, c'est ça qui manque. Une fois qu'on a mis l'argent, l'entrepreneur, bien sûr, qui a son idée, qui est dynamique, etc., il y a une organisation en interne qu'il faut revoir, il y a des collaborateurs nouveaux qu'il faut recruter parce qu'ils changent de modèle. Et Mariama, le jour où elle va passer de 6 000 paquets de chips à 100 000 paquets de chips, c'est plus la même entreprise. Quand elle va passer à 500 000 paquets de chips, ça n'a plus rien à voir. Et donc, dans ce processus, il y a l'accompagnement qui est essentiel et c'est ça qui fait défaut malheureusement dans beaucoup de PME qu'on observe, qu'on accompagne à travers le forum des PME par exemple ou d'autres projets que nous développons. Donc ce volet est important, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'un écosystème et donc d'un certain nombre d'acteurs qui doivent être autour de la table pour accompagner le financement.
Mialy Ranefson, vous, en tant que fonds d'investissement, quand vous entrez au capital d'une PME à Madagascar, vous rentrez pour 5 ans, hein, grosso modo.
Oui, effectivement, nous sommes là pour une durée déterminée.
Et donc, l'idée, c'est de sortir en ayant gagné de l'argent, hein, en ayant revendu vos parts. Donc, il faut que cette entreprise, cette PME, elle ait accéléré sa croissance de manière significative et rapide.
Exactement. Et d'ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir l'accompagner dans cette croissance et éviter qu'il y ait des éléments qui peuvent freiner cette croissance.
Et qu'est-ce que vous apportez concrètement ?
Concrètement, nous avons 4 apports. Le premier est bien sûr le financement qui permet de financer la croissance en question. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement stratégique en deuxième point. Il s'agit surtout d'être comme un copilote à travers la gouvernance de l'entreprise qui permet donc en quelque sorte de définir ensemble la stratégie, comment est-ce qu'on va avancer ensemble. En troisième lieu, on a des capacités de financer des missions d'assistance technique qui sont cette fois-ci du renforcement de capacités sur des sujets très techniques et très spécifiques à chaque entreprise et à chaque problématique. Mmh. Et enfin, il y a le réseau qui permet donc le réseautage, du plaidoyer, de la formation, du partage de marché avec tout le réseau d'IEP et le réseau d'entrepreneurs des entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés, que nous accompagnons.
Très important hein, que les entrepreneurs, les entrepreneuses se réunissent, se rencontrent, partagent leurs problèmes. Quelles sont les erreurs souvent commises par les jeunes entrepreneurs quand ils sont à la recherche de financement, vous diriez, Mialy Ranefson, de se tromper de partenaire
Je pense que la principale erreur que je rencontre souvent, c'est de dimensionner son financement par rapport au financement disponible et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut chercher le financement qui est utile et nécessaire pour le projet et donc chercher le financeur qui y correspond et non pas, tiens, j'ai trouvé un financeur.
Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 10 000 euros
ouais. Oui,
voilà. Et donc, j'invente un projet qui va avec le financement.
Oui.
Non, mais effectivement, en fait, l'entrepreneur cherche de l'argent, en fait. Donc, lui, il va prendre l'argent qui arrive en premier, malheureusement, parce qu'il est tellement désespéré. Imaginez, vous avez une commande. Imaginez mon entrepreneur, Yves, dont je parle souvent, le Togolais, a un chantier à livrer. Il lui faut acheter de l'équipement. Il a besoin de 50 ou 100 000 dollars. Bah, le premier qui arrive, il prend, parce qu'il a un marché à livrer. Et c'est ça le problème.
Même si c'est beaucoup moins, quitte à redimensionner son projet, du coup.
Bah, bien sûr, mais lui doit livrer. Parce qu'il est dans un processus de delivery. Je dois délivrer une promesse. J'ai signé un marché. Et donc ça aussi, c'est un problème de l'entrepreneur généralement en Afrique. C'est-à-dire qu'il est face à un marché qu'il doit livrer, à une commande qu'il doit livrer. Et il se rend compte qu'il n'a pas de trésorerie, et ben il va chercher la première source de financement qui arrive, quitte à ce que cette source soit beaucoup trop chère. Et il se retrouve 6 mois après à se dire, mais mince, pourquoi j'ai pris ça? Ça me coûte trop cher. Et la prochaine commande, comme le client n'a pas encore payé, il se retrouve dans le même problème. Et donc, c'est vrai qu'à l'arrivée, le conseil, c'est quand même de se dire, c'est vrai, un projet, c'est bien, une entreprise, c'est bien. La construire dans la durée avec la structure de financement qui correspond le mieux, anticiper, c'est encore mieux. Et c'est souvent ça qui manque quand même dans la dynamique de l'entrepreneuriat en Afrique.
Serge Massamba.
C'est bien pour ça qu'on parlait de la capacité technique et du gestionnaire et du promoteur. Il doit se lancer dans un domaine qu'il connaît, au moins, plus ou moins. Je pense qu'on accompagne les entrepreneurs qui font preuve de cohérence et d'engagement dans leur business. C'est-à-dire que donc, quand on leur prête 5 000 euros, je donne un exemple, c'est bien pour ne pas qu'il y ait un détournement d'objet. Il faut qu'il ait un plan, il faut qu'il y ait une cohérence dans son plan et dans la manière dont il exécute ce plan-là.
Et vous aussi, alors ce sont les PME qui vous choisissent, vous, ou c'est Cofina qui choisit ces pépites?
Ce sont les PME qui choisissent de venir chez Cofina parce que, soit elles ont entendu parler de Cofina, elles savent que nous, on accompagne en fait ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas simplement, on donne pas simplement du crédit, on met évidemment à la disposition des entrepreneurs des ressources financières, mais on forme aussi les entrepreneurs. J'ai parlé tout à l'heure de Finel, qui est notre filiale dédiée à l'entrepreneuriat des femmes. On a formé récemment 100 femmes avec l'ONU Femmes et les Diagri dans la gestion de leur business dans la chaîne de valeur du manioc. Donc on accompagne ces femmes-là, on les sensibilise aussi de plus en plus au sujet lié à la problématique environnementale, c'est ce qu'on a fait. Donc je pense qu'ils nous regardent comme non seulement pourvoyeurs de crédit, mais aussi accompagnateurs dans leur business.
Mialy Ranefson, vous financez des PME, déjà très avancées. Hein. Didier Acouetté, expliquez bien comment le financement de la croissance des PME, c'était une sorte d'échafaudage hein, avec des briques qui se superposent et on peut finalement conjuguer plusieurs types de financement, soit en même temps, soit les uns après les autres. Mialy Ranefson, à Madagascar, quand une PME est financée par votre fonds d'investissement, par investisseurs et entreprises, est-ce que ça débouche aussi sur d'autres financements, peut-être des banques qui, jusqu'à ce que vous vous intéressiez à cette PME, ces banques-là ne s'intéressaient pas à cette PME, mais comme vous vous intéressez à elle, la banque va arriver derrière. Comment ça fonctionne?
C'est exactement ça. L'arrivée d'un investisseur en capital dans une PME apporte plusieurs avantages pour les banques. D'abord, il y a bien sûr le renforcement de la structure financière de l'entreprise qui donc lui permet de s'endetter plus. En deuxièmement, il y a le renforcement de la gouvernance de l'entreprise et du coup rassure la banque sur que son argent soit bien utilisé. Et enfin, un fonds d'investissement demandera des reportings et un suivi régulier de cette entreprise. Et donc, on sera toujours au courant de ce qui se passe. Il y a un suivi régulier et pour une banque, c'est très rassurant. Il est donc arrivé, et il arrive toujours, que lorsque nous investissons dans une entreprise, nous permettons à cette entreprise de bénéficier de prêts bancaires en plus et qui fera d'ailleurs un effet de levier pour cette entreprise.
Oui, parce qu'elle arrive aussi avec des documents beaucoup plus structurés en face du banquier qui demande toujours trop, hein, Didier Acouetté, au dire des entrepreneurs.
Non, c'est vrai, parce que le banquier a besoin de sécuriser l'argent qu'il vous prête, qui est l'argent des autres. Mais ce que dit Mariam, c'est justement que ce processus oblige l'entrepreneur, Mialy, à se structurer davantage et être prêt à accueillir le prochain financement. Donc c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. Et Emmanuel, votre question est excellente parce que, curieusement, lorsque un premier fonds accepte de rentrer dans une PME, vous avez d'autres fonds qui l'approchent pour dire « Mais tiens, ça nous intéresse parce que l'autre a dû faire la due deal et a dû se dire « C'est un bon business, donc moi aussi potentiellement je pourrais aller regarder ». Donc finalement c'est un exercice
vertueux. La banque arrive en bout de chaîne quand il y a zéro risque finalement. On a rhabillé les banques pour l'hiver.
La banque arrive
banque,
en dernier.
Banque classique.
Pour Cofina, vous êtes un établissement bancaire. Hein.
Non, mais on a un agrément de microfinance.
Oui, c'est ça. Vous représentez finalement un peu le sens du risque d'un fonds d'investissement et le service d'une banque, d'une micro-banque avec du prêt, d'une certaine manière.
Oui, on analyse quand même très bien le risque. On a des comités de risque qui sont assez bons. On passe quand même au crible les demandes de crédit.
Vous avez des clients qui ne peuvent pas rembourser, qui ne remboursent pas.
Oui,
vous avez
ça arrive,
des échecs.
Mais, oui, ça arrive. Mais notre plus gros, je crois que notre fierté, c'est d'avoir une capacité à réagir très très vite et à répondre aux besoins des clients. Je crois que c'est ça qui fait notre force. Et je parlais tout à l'heure de Mariama, je disais qu'il faut qu'elle passe au bureau de Libreville et elle verra la rapidité. On va répondre.
On va suivre l'affaire,
ça sera non.
Les chiffres de Magnac,
ça sera oui ou ça sera non, mais en moins d'une semaine, on saura répondre à Mariama. C'est ça, je crois, qui est important aujourd'hui parce que les entrepreneurs ne peuvent pas attendre. attendre 3 mois pour avoir une réponse, on a perdu le marché.
Mialy Ranefson, en quelques mots, vous auriez 2-3 conseils à donner pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent pour financer leur croissance ?
Oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à s'associer. Seul, on va loin. Ensemble, on va loin et plus vite. Donc, il ne faut pas hésiter à s'associer. Je répète, adapter le financement au projet et non l'inverse. Et bien sûr, croire en soi.
Serge Massamba, un dernier conseil, quelques secondes.
Moi, il y a beaucoup de conseils, mais je crois qu'il y a un élément fondamental qui est le courage, en fait, pour moi. Le courage est fait, pour moi, c'est vraiment là qu'on reconnaît un grand entrepreneur. Car le courage est la mère de toutes les qualités. Je crois que c'est ça que je conseille.
Un dernier conseil pour financer la croissance, Didier Acouetté.
Non, je crois que clairement, les entrepreneurs font preuve de résilience. Et effectivement, il faut bien choisir son type de financement, et la banque n'est pas la solution en fait ultime, parce que beaucoup se tournent vers la banque. Or, effectivement, il y a la méso, il y a le fonds d'investissement, le capital à risque, les amis, la famille, le crédit bail. Donc c'est de cet écosystème, à mon avis, que les entrepreneurs arriveront à financer leur croissance cette année. Et justement, c'est bien de regarder quel est son vrai besoin pour choisir le bon type de financement.
Eh bien, merci à vous, merci, Didier Acouetté. Merci à vous, Serge Massamba, un des dirigeants du groupe Cofina, cofondateur du groupe Cofina. Et merci à vous, Mialy Ranefson, directrice du bureau de Madagascar pour investisseurs et partenaires. Merci d'avoir été en ligne avec nous d'Antananarivo. Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec Didi B, nouveau millionnaire. C'est la chanson, c'est ce qui vous attend si vous écoutez nos émissions. Avec Didier Acouetté, vous revenez. Vous revenez le mois prochain, Didier. Hein.
Évidemment, et nous serons tous millionnaires au moins en dollars, n'est-ce pas Serge?
Et quant à vous les jeunes entrepreneurs, contactez-nous surtout, hein, dès maintenant au 33 7 64 45 51 41.
Nouveau millionnaire, la petite sous le drap, voilà. Ils vont rien faire, ça gérer ses poupées. Maintenant elle veut des fleurs depuis que je suis bouquée. Enfer en français fort et enfer en dollars. Les nouveaux propriétaires sont dans le coin. Poussez-vous, poussez-vous. Nouveaux millionnaires, ils sont pas prêts. Trop peu de qualité, sont paniqués. La sacoche est sous le bras.
La sacoche est sous le bras.
La petite est sous le bras.
La petite est sous le bras.
Nouveaux millionnaires, totalité. On n'est pas vacciné, faut que les passes sanitaires. Conspiration, on va serrer cuit. Mission accomplie, on tue la grand-mère Abby. La petite a vu des dons, c'était tout, j'ai plus de dons, plus de dons. Les rappeurs ont mis des dons, j'ai croqué la vie, je n'ai plus de dons, qu'elle n'a plus besoin de me présenter. Côte à la, côte des ongles. Tellement de flancs, ça fait disjoncter. On est méchant, c'est pas très gentil. Des billets, j'encaisse, nous, je suis dans la caisse. Emmène la vie dans rêve, emmène la vie dans rêve. Assini, on baise, mais jamais sans guêpe. T'es pas belle, tu restes, tu ne monteras pas dans la caisse.
Il faut rien faire, ça gérer ses poupées. Maintenant elle veut des fleurs depuis que je suis bouqué. On fait en français fort et on fait en dollars.
Les nouveaux propriétaires sont dans le coin. Poussez-vous, poussez-vous. Nouveaux millionnaires, ils sont pas prêts. Trop peu de qualité, sont paniqués. La sacoche est sous le bras.
La sacoche est sous le bras.
La petite est sous le drap.
La petite est sous le drap.
J'suis nouveau millionnaire, qu'est-ce que tu vas faire? À la skinny comme fil de fer, j'suis bandé, j'suis sur les nerfs. Cristiano, à moi je t'en, hein. Tu vois tout rouge. J'ai pris la gomme dans le salon, hein. Dans la douche. Allez,
debout. 8 milliards de voisins sur RFI, on se retrouve bien sûr demain. On parlera du scandale de l'adoption internationale illégale. Et bien sûr, ce sera avec l'équipe Damien Roucou, Zainaba Diallo, Divine Berthou, Nicolas Benita, Didier Cherouz. Et nos émissions sont à réécouter, comme toujours, en podcast à l'horaire qui vous convient. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.